En 1601, on retrouve dans les archives paroissiales de Friville un document, un acte de baptême, sur lequel il est précisé le nom du parrain, qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, c'était Boutet. Et donc ce Boutet est désigné comme étant le parrain d'un petit garçon, je crois, et il précise son métier, serrurier. Ce qui ne se faisait jamais avant. On a vu apparaître dans les actes paroissiaux, on a vu apparaître les métiers bien plus tard, à la fin du XVIIe. Mais là, ça n'existait pas. Donc c'était la première preuve qu'il y avait un serrurier à Friville. Et il faisait partie de ces serruriers qui ont commencé certainement à développer la serrurerie. Alors on ne sait pas s'il était paysan ou pas, mais ce qui est certain, c'est que un trois quarts de siècle plus tard, vers 1670, on a retrouvé dans les archives plein de serruriers, de maîtres serruriers, qui avaient d'ailleurs la particularité de mettre au bout de leur signature, ils mettaient une petite clé, ils dessinaient une petite clé. Et donc, entre-temps, il y a eu, vers 1640, je crois, il y a eu une légende qui est arrivée par ici en disant que c'était un horloger, on ne sait pas trop s'il était allemand, hollandais, bon bref, flamand, qui est arrivé, un appelé Mackenheim, et qui voulait fabriquer des horloges. Puis finalement, a priori, ça n'a pas bien fonctionné, mais il a décidé de s'intéresser à la serrurerie, il a fabriqué des serrures, et c'est soi-disant le début de la serrurerie. Bon, ce qui est faux, parce que je reviens à mon Boutet, là, qui en 1601 avait commencé, donc, et le nom de Mackenheim, on l'a retrouvé bien avant, on l'a retrouvé au XVIe siècle, on le retrouvait déjà au Tréport, dans la région, il y avait plusieurs déjà Mackenheim. Et donc, bref, cette légende, elle existe, elle tient bon, mais finalement, je ne retiens simplement que le nom dedans. Donc c'était la fin du XVIIe. Et alors, le gros envol de la serrurerie est venu à l'époque de Louis XIV. Louis XIV, qui était tout jeune, vers 1650, mais il est devenu roi très jeune, et on sait tous qu'il a fait construire Versailles. Et Versailles, ce sont des dizaines de milliers de serrures, de crémones, de produits mécaniques comme ça qu'il fallait fabriquer. Et donc nos paysans qui travaillaient la terre l'hiver, ne faisant rien, on se sont mis à faire de la serrurerie. Alors on suppose quand même que ça a démarré avec des grossistes parisiens qui étaient, eux, sur place à Paris et qui venaient acheter les produits à nos serruriers à nous et qui les revendaient après pour équiper alors le château de Versailles, mais aussi les hôtels particuliers, les châteaux, toutes les belles constructions des constructions pour les nobles, quoi. Forcément, les serrures par ici, on n'en mettait pas, il n'y avait pas. Alors ça a été ce début, ça a été ce qu'on a appelé la proto-industrie. Et la proto-industrie, c'est un terme qui a été inventé par un économiste américain dont j'ai oublié le nom, peu importe. Et c'est la fabrication de produits dans une région, mais destinée à l'exportation, c'est-à-dire que ces produits n'équipent pas les ports des maisons et des mansardes de la région. Nos pauvres serruriers, ils mettaient un morceau de bois, certainement. Peut-être qu'ils se faisaient une serrure pour eux, pour se faire plaisir, mais bon, mais il n'y avait pas de serrure sur les portes. Et donc ces grossistes parisiens venaient s'approvisionner chez nous, remontaient après à Paris, et une des traces qui est restée, ce sont pour approvisionner Paris, ce sont les chemins des chasse-marées. Les chasse-marées, c'était ces convoyeurs qui amenaient tous les jours du poisson à Paris. Et ils amenaient le poisson boulevard Poissonnière, Hein, c'était le but. Et donc, il y a plein de chemins par ici où il y a encore le chemin des chasse-marées. Et donc, quand les serruriers avaient une serrure à livrer, ils s'arrangeaient pour aller sur le chemin des chasse-marées, ils déposaient le colis et le grossiste allait les récupérer, boulevard Poissonnière à Paris, quoi. Donc, c'était le début vraiment du commerce entre Paris et le Vimeux. On arrive maintenant au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle de la révolution industrielle, mais en Angleterre. Hein, la première machine à vapeur, Watt, tout ça. Et ça permet aux serruriers un petit peu entreprenants déjà de se dire ben, pourquoi pas en faire un vrai métier. Et on voit vers 1750-60, on voit la population de certains villages qui étaient majoritairement des villages de paysans, quoi. On voit les paysans diminuer et on voit les serruriers augmenter au niveau proportion. Voilà. Et donc, on commence à avoir des ateliers qui se créent. Alors, c'est pas, bien sûr, des 300 personnes, mais c'était des ateliers de peut-être 5, 6, 7 personnes. Alors, parfois... Aussi, c'est toute la famille qui travaille. C'est le grand-père, le père, le fils, et puis il y a le petit-fils dans le berceau à côté, et voilà. Parce que il y avait la serrure est un objet mécanique très précis. C'était une petite, c'était de l'horlogerie. On parle d'horlogerie. Et on parle aussi de serrure à secret. C'était beaucoup de secrets. Et les maîtres serruriers, à l'époque, lorsqu'ils concevaient une serrure, devaient trouver le système que personne n'avait. Et donc, ils favorisaient l'embauche dans leur boutique que des gens de leur famille, parce que le secret ne devait pas quitter la famille. Voilà. Mais il arrivait aussi que le serrurier n'avait pas de descendance mâle et il fallait faire appel à ce moment-là à d'autres personnes. Donc c'était des gens qui mettaient leurs enfants en formation chez un serrurier et pour se former, la formation était de 5 ans. Voilà. Donc 5 ans, c'est long. Et surtout que les gens n'avaient pas les moyens d'attendre 5 ans que leur fils travaille. Et il fallait... Alors ce qui s'est passé, c'est que les maîtres serruriers donnaient la première année un type de serrure à fabriquer. Et quand le jeune savait bien fabriquer ce type de serrure, au lieu de rester 5 ans, il restait peut-être une deuxième année. Mais finalement, il quittait le maître serrurier. Il venait s'installer dans son village. Et il apprenait aussi la technique de la serrure qu'il avait lui-même appris. Il l'apprenait à son frère, à son neveu, à son cousin. Et c'est comme ça qu'il y a eu des spécialités dans les villages. Par exemple, ici, au Wagnaru, c'était des coffres-forts. Voilà. Il y avait beaucoup, un fabricant de coffres-forts important à Valines, à Ambreville. À Ambreville, il y a eu 10 fabricants de coffres-forts. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est le développement. À Feuquières, c'était les serrures de sûreté. À Fressenville, c'était les cadenas. À Saint-Blimont, c'était les serrures de meubles. Voilà. Il y avait, chaque village avait sa spécialité comme ça. Donc, ces boutiques se sont développées. Et puis, la révolution industrielle a commencé à gagner tout doucement la France. On arrive à la fin du 18e. Elle est arrivée chez nous plutôt vers 1800, voilà, après la Révolution, on va dire. Hein. Et là, la technique a aussi évolué. Ce qui était fabriqué, on ne l'a pas dit, oui, mais c'était toujours du travail de forge qui servait à faire les serrures. Et là, la forge a commencé un petit peu à laisser la place aux pièces fondues, parce qu'on venait de découvrir, Réaumur en particulier pour chez nous, mais il avait découvert le procédé de la fonte malléable. La fonte malléable, c'est un acier décarboné que l'on peut mouler, qui prend toutes les formes que l'on veut, et dans des moules. Et donc, on fabriquait des moules avec de la terre, on faisait la forme du produit, etc. etc. Et donc, c'est la fonderie s'est développée de façon considérable, et ça a attiré des fabricants parisiens pour construire des usines, des usines, là vraiment des usines. On arrive vers 1820, 1830, 40, les premières usines qui arrivent. Il y a simplement parfois que les fonderies, et parfois ce sont les serruriers qui commencent aussi à inclure une fonderie chez eux, et qui font appel à la main-d'œuvre d'artisans. Alors les artisans se disent, je vais aller travailler en usine parce que j'aurai une sécurité, je suis certain de... Voilà, il n'avait pas de vacances encore à l'époque, mais là, il y avait des avantages à venir travailler chez un gros fabricant. Donc voilà, donc on est arrivé là, donc on est arrivé au 19e siècle, qui va amener beaucoup de modifications dans la façon de travailler. Les usines deviennent de plus en plus importantes. On va voir arriver pas encore le syndicalisme, mais on va commencer à avoir des regroupements, des associations qui se créent pour justement permettre aux ouvriers d'avoir de meilleures conditions de travail, de discuter, etc., etc. Le syndicalisme avait du mal à s'implanter chez nous, parce que ceux qui étaient restés serruriers en boutique avec leur famille, tout ça, disait « moi, je n'ai pas envie de me syndiquer, je suis bien comme ça, on ne bouge pas ». Et celui qui travaillait dans une usine, on disait « moi, je suis bien, je n'ai pas envie de me mettre mal avec mon patron, etc. ». C'était bien sûr très paternaliste. Et donc ça posait des problèmes. Et les premiers syndicats, on arrive au début du 20e siècle, 1900 et surtout 1906, une date qui a marqué la région. 1906, il y a eu un gros accident dans une mine du Pas-de-Calais. C'était, j'ai oublié le nom, il y a eu un coup de grisou, il y a eu je ne sais plus combien de milliers de morts. Et donc il y avait un climat très 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 tendu déjà. C'était Clémenceau, je crois, qui avait envoyé la troupe et ça a fait un massacre. Et ça avait, par ici, on était à côté du pays de minier. Donc il y avait déjà une ambiance un petit peu compliquée. Et puis en 1906, il y avait une grosse usine de Fressenville qui s'appelait Guerville et Riquier, très grosse entreprise, 300-400 personnes, dont beaucoup travaillaient chez eux, mais il y en avait dans l'usine, mais aussi qui travaillaient en boutique, qui faisaient partie de la même équipe, quoi. Et donc, un syndicaliste vient, il est pour demander aux ouvriers de l'usine Guerville-Riquier de participer à leur effort pour leur caisse, leur donner un petit peu d'argent. Et finalement, ça s'est pas bien passé avec les propriétaires, avec monsieur et monsieur Riquier. Et donc ça a duré quelques jours comme ça, et un beau jour l'usine a complètement arrêté et ils ont incendié le château de monsieur Riquier. Voilà. Ah, monsieur Riquier, c'était quelqu'un d'important à l'époque parce qu'il faisait travailler toute la ville, bien sûr, mais aussi c'était une grosse, grosse entreprise. Et donc, le château a brûlé, la troupe est arrivée, et ça a eu un retentissement national, parce que les journaux s'en sont emparés, et les Fressenvillois sont devenus en Picard chez Méthode Fu, les incendiaires, on va dire, et ça vient de cette époque-là, quoi. Et donc, alors, tout ça à cause du premier syndicat. Alors, ce premier, je reviens un petit peu au premier syndicat, en réalité, c'est un Lyonnais, parce qu'on concurrençait les Lyonnais avec nos robinets, et puis les Lyonnais disaient « vendez vos produits plus chers », puis les gars de la région disaient « nous, on fait comme ça ». Et finalement, c'est un Lyonnais qui est venu s'embaucher dans la région et qui a un petit peu incité les gars à se syndiquer. Et le syndicalisme est né à partir de, à partir